France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Il faisait de plus en plus chaud. Franck May quitta son petit matelas et s'avança jusqu'à la fenêtre. Franck prit une longue inspiration qui lui rappela aussitôt l'atmosphère des saunas, alors que c'était le moment le plus frais de la journée. Toute la ville résonnait du bruit des climatiseurs qui bourdonnaient comme des moustiques géants. Tout était ocre ou beige ou d'un blanc insoutenable. Une ville ordinaire de l'Uttar Pradesh à 6h du matin. Il consulta son téléphone, 38 degrés. Humidité aux alentours de 35%, c'était cette conjonction le vrai problème. Quelques années auparavant, il se serait agi de l'une des plus hautes températures humides jamais enregistrées, non pas d'un simple mercredi matin. Franck enfila une chemise blanche qui se trempa aussitôt de sueur. Il sortit dans la rue, les générateurs grondaient, sans doute pour alimenter les climatiseurs, tout en crachant leur gaz d'échappement dans l'air surchauffé. Il retint une nouvelle quinte de toux, il faisait trop chaud pour tousser. Sinon, la bouffée d'air suivante semblait jaillir d'un four, ce qui faisait tousser encore plus. Une fois au lac, il découvrit une scène de désolation. D'innombrables têtes en parsemaient la surface, près des rives, mais aussi là où l'eau était plus profonde, corps appuyé sur un quelconque radeau improvisé. Sauf qu'il y avait des morts parmi les baigneurs. Des miasmes s'élevaient du lac, une odeur de viande pourrie, perceptible, même par des narines brûlées de chaleur. Franck goûta l'eau du lac, chaude, fétide, gavée de matières organiques d'origine inconnue. Il souffrait d'une soif inextinguible. Accepter l'eau chaude dans son estomac signifiait qu'il n'y avait plus de refuge nulle part, que le monde était à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, dans les deux cas bien plus chaud que la température normale d'un corps humain. Les baigneurs se faisaient pocher dans le lac. Franck but discrètement à sa bouteille. L'eau était tiède, pas trop chaude et pas sale. Son corps en avait tant besoin qu'il avala tout d'un seul coup. De l'autre côté du lac, il vit les premiers rayons de soleil frapper le sommet des arbres qui parurent s'enflammer. Tournant très doucement la tête, Franck scruta le lac. Tout le monde était mort. Bonjour Christophe Cassou.
Bonjour.
Cet extrait est tiré du roman Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Est-ce que c'est ce type de littérature que vous aimez lire pour vous remonter le moral ?
Aimer lire, non, bien évidemment. Je pense que ce type de littérature permet en fait d'incarner le changement climatique, d'incarner les futurs climatiques que l'on pourrait vivre. Et la description de cette canicule est effrayante, édifiante. Et pourtant, on s'en va vers cette trajectoire-là, où les canicules seront mortelles.
Oui, très mortelles, parce que dans le scénario du ministère du futur, la canicule provoque la mort de 22 millions de personnes en Inde. Hein. L'intrigue est située en 2025, d'ailleurs.
Les canicules sont déjà mortelles aujourd'hui. Hein. On arrive à déterminer le surplus de mortalité dû à ces chaleurs extrêmes. Pour l'année 2022, par exemple, c'est 6 000 morts en Europe. Mais elles vont devenir évidemment de plus en plus mortelles, puisque en fait chaque fraction de degré compte dans la sévérité, dans l'intensité, dans les impacts liés à ces événements extrêmes.
Ouais. Un scénario à 22 millions de morts, ce serait possible ?
Peut-être pas 22 millions de morts, en fait, j'ose pas espérer. Mais en fait, cette description-là questionne l'habitabilité de certains territoires, l'habitabilité pour toutes et tous. Alors l'habitabilité, c'est cette capacité de vivre de manière sûre, pour sa santé, pour son alimentation, pour sa vie culturelle et sociale dans un lieu. Et ces événements extrêmes menacent en fait cette habitabilité, et en particulier donc dans les zones tropicales, hein, en Inde, où la population est déjà très importante.
Ouais, elle a déjà souffert d'ailleurs encore à nouveau cet été, hein, on l'a vu dans l'actualité, avec des pluies torrentielles, des inondations, plusieurs centaines de morts en Inde, des centaines de milliers de personnes qui ont été obligées de quitter leurs habitations. Et ça, c'est la réalité du présent, déjà.
C'est déjà la réalité du présent, et on est à 1,36 degré de réchauffement planétaire. Mmh. Et on s'en va vers 3 degrés de réchauffement planétaire. Donc imaginez les impacts au milieu du siècle où on sera vers 2 degrés, et à la fin du siècle, où suivant les politiques publiques qui sont sur la table aujourd'hui, on sera vers 3 degrés. Donc le changement climatique, c'est une réalité, c'est le quotidien, c'est plus un paysage lointain vers lequel on se dirige, c'est maintenant, il s'exprime par des événements extrêmes, et aussi par des changements qui sont un petit peu plus sournois, comme la hausse du niveau de la mer, qui se fait de manière chronique, mais qui, lorsqu'une tempête arrive, génère des submersions marines qui sont dévastatrices.
Christophe Cassou, ce roman, Le ministère du futur, ne s'arrête pas heureusement à l'apocalypse. Il imagine un futur certes difficile, chaotique, mais aussi où une mobilisation collective finit par infléchir la trajectoire. Donc ça, c'est une possibilité de croire que l'action, même si elle est tardive, même si elle est imparfaite, peut changer quand même le cours des choses.
L'action peut changer et il faut que l'action se mette en place et soit à la hauteur des changements nécessaires. Peut-être une conclusion que l'on ne porte pas assez et qui vient du dernier rapport du GIEC, c'est le fait que si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui, la température globale de la planète se stabilise immédiatement. Mmh. Et quand on parle de température globale de la planète, on parle aussi d'événements extrêmes. Donc on ne revient pas en arrière, hein. Mais par contre on reste au niveau actuel.
Et à quel moment on revient en arrière, justement ?
Alors, la seule manière de revenir en arrière, ça serait d'extraire le CO2 de l'atmosphère. Le CO2 a cette mauvaise propriété physique et chimique de s'accumuler dans l'atmosphère et de rester pour des milliers d'années. Mmh. Donc, pour revenir au climat, on va dire, du XXe siècle, il faudrait enlever les quantités considérables de gaz à effet de serre qu'on émet. On émet chaque année à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.
Et comment on pourrait procéder alors pour extraire ce CO2 ?
Alors il y a plusieurs manières, des manières plutôt axées sur le vivant. Il s'agit de booster ou d'amplifier ce qu'on appelle les puits de carbone, c'est-à-dire ces milieux qui sont capables d'absorber une partie du carbone que nous émettons dans l'atmosphère. Donc c'est les écosystèmes terrestres, c'est les forêts, c'est les prairies, et puis bien sûr l'océan. Et puis d'autres techniques qui sont plus industrielles, où il s'agit de capturer le CO2 dans l'atmosphère par des processus. On appelle ça de la capture et du stockage de carbone. Et
c'est de la géo-ingénierie ?
C'est une forme de géo-ingénierie et ça consiste en fait à remettre ce carbone dans le sol.
Ça, c'est déjà à l'œuvre ou pas d'ailleurs ?
Alors, il existe aujourd'hui des prototypes de ces processus-là. Mais il faut quand même garder à l'esprit les ordres de grandeur. Considérant aujourd'hui les capacités physiques, donc les limites physiques de notre planète, on sait que ces techniques-là seront nécessaires, mais ne seront pas suffisantes pour diminuer le réchauffement climatique. Il faut diminuer massivement nos émissions de gaz à effet de serre avant, pour que ces techniques ensuite nous permettent de, on va dire, faire le dernier pas.
Donc il n'y aura pas d'aspirateur magique qui sera capable de nettoyer l'ensemble du CO2 dans l'atmosphère.
Absolument pas.
Il faudra faire un effort avec celui que nous émettons.
Exactement.
En 2023, Christophe Cassou, le média reporter, vous consacrait un article en titrant « Christophe Cassou, la rockstar du climat ». Vous vous reconnaissez dans ce titre ou pas ?
Non, d'ailleurs, je leur ai dit que leur titre était peut-être assez mal choisi. Je ne m'y reconnais pas parce que, en fait, mon implication dans la médiation scientifique, dans la vulgarisation scientifique, pour moi, fait partie d'une mission inhérente à mon métier de chercheur. Le chercheur produit de la connaissance, publie des articles dans des revues à comité de lecture, des articles scientifiques, encadre des étudiants, forme. Mais aussi, il a cette mission de participer au débat public en amenant les faits. Donc, c'est une brique, en fait, dans cet espace démocratique. Rockstar, donc, non, je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui pourrait avoir ce qualificatif-là, en tout cas.
On va découvrir avec vous votre parcours, les racines de votre conscience écologique, vous qui avez grandi dans les Landes, près de Dax. Quel est d'ailleurs votre milieu social, Christophe Cassou ?
Alors moi, je viens d'un milieu social très modeste. Hein. Mes parents étaient fonctionnaires à la Sécurité sociale. Dans ma famille, j'étais le premier à avoir eu le bac et à rentrer ensuite poursuivre des études jusqu'à mon doctorat.
Il n'y avait pas de scientifique dans la famille Cassou ?
Pas du tout de scientifique dans la famille Cassou. Donc, voilà, moi j'ai vécu dans un petit village proche de la nature et c'est peut-être ce qui a forgé ce caractère d'être en forte connexion avec le milieu vivant, de le respecter. Et parce que pendant mon enfance, j'ai toujours été fasciné par les phénomènes atmosphériques qui, je pense, m'ont conduit au métier que j'ai aujourd'hui et qui est un métier passion.
Donc c'était une vocation ultra précoce, en fait, parce que vous êtes spécialiste des événements extrêmes aujourd'hui, et déjà, dès votre plus jeune âge, vous aimiez les tempêtes, les vents, tout ça faisait partie de vos admirations, finalement.
Voilà, j'étais un gamin qui était curieux de ces phénomènes-là, qui voulait les comprendre, donc... à Noël, j'avais des livres. Pour les anniversaires, j'avais des livres sur ces phénomènes-là. Et puis, un grand-père aussi, qui avait de l'or dans les mains et qui travaillait le bois de manière assez incroyable et qui m'a construit une station météo. une station métro.
Vous aviez quel âge ?
Et j'avais 10 ans. Et donc ensuite, de 10 ans jusqu'à 18 ans, l'âge où j'ai quitté mon petit village des Landes, j'ai fait des relevés météo. Et je demandais à mes parents, mes grands-parents, de faire ces relevés-là quand je n'étais pas là, parce que j'avais conscience, alors je ne sais pas si j'avais conscience, mais en tout cas j'avais lu qu'en fait il ne fallait pas qu'il y ait de rupture dans les séries d'observation, parce que c'était un problème, parce qu'on ne pouvait pas faire des moyennes, parce qu'on ne pouvait pas avoir une vision climatique.
Donc vous aviez déjà la méthode scientifique chevillée au corps ?
Peut-être, mais donc à partir de mes bouquins, en fait, puisqu'il n'y a pas donc cette culture scientifique qui était présente dans ma famille.
Et alors, le climat, comment est-ce que vous arrivez finalement à cette spécialité ?
Alors, je suis passé par la météo, d'abord, puisque, comme je le disais, j'étais fasciné par ces événements météorologiques. Et quand on est gamin, à 10 ans ou même plus tard, même adolescent, on n'a pas en fait conscience de ce qu'est vraiment le climat. On l'adresse via le prisme des phénomènes météorologiques que l'on vit au quotidien. Donc le climat est venu un petit peu plus tard, durant ma thèse, où donc j'ai étudié les fluctuations climatiques, donc aux échelles de temps longues, sur une année, une décennie, sur l'Atlantique Nord et sur l'Europe. Et j'ai commencé à adresser un petit peu les effets de ce cumul de CO2 dans l'atmosphère, donc de ce réchauffement climatique, les effets qui pourraient être les impacts que l'on pourrait ressentir sur l'Europe via une modélisation qui était très... J'ai le mot anglais qui me vient à l'esprit, crude, qui était grossière à cette époque-là, puisque c'était fin des années 90, début des années 2000.
Oui, c'est ça. Et alors, vous recevez un prix d'ailleurs en 2002, le prix Prud'homme. C'est un prix de thèse de la Société météorologique de France pour un article justement sur le changement climatique au régime de temps, l'oscillation nord-atlantique. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, justement, autour de cet article ?
Alors, j'ai été le récipiendaire de ce prix-là, qui a été attribué par la Société météorologique de France, à cette époque, la Société savante météo et climat, qui s'appelait ainsi. Et le contrat était d'écrire un article de vulgarisation, de médiation, sur ces travaux de thèse. Donc, c'est l'article que vous mentionnez. Et j'avais envie, comme j'avais en fait carte blanche sur mes travaux de thèse, d'adresser ou de commenter déjà, ou de parler des effets du changement climatique sur les événements extrêmes. Et j'avais été censuré. Cette partie-là de mon article avait été censurée. Parce que j'attribuais le réchauffement climatique aux activités humaines et donc aux émissions de CO2.
On est au début des années 2000 quand même.
On est au début des années 2000, on est au moment où c'est l'époque du climato-scepticisme, ou en tout cas du climato-scepticisme émergent. Et donc à ce moment-là, c'était quasiment impossible de lier les événements extrêmes au changement climatique, même si on avait la connaissance physique qui était déjà présente, pour les lier de manière indéniable. Donc on se rangeait derrière la rigueur mathématique, derrière la rigueur statistique. Et donc j'avais trouvé un compromis avec le comité éditorial de cette revue, parce que je trouvais complètement anormal et injuste d'être censuré, et donc j'avais menacé de refuser le prix.
Ouais.
Et donc j'étais arrivé à un compromis où un petit encadré allait être ajouté à l'article. Et cet encadré commençait par libre opinion de l'auteur qui déchargeait le comité éditorial des propos qui étaient tenus dans la revue.
Incroyable, non, finalement, avec le recul. D'abord, je crois que sur le coup, ça vous a vraiment choqué, le fait d'être censuré au sujet de cette analyse que vous faites des phénomènes de l'époque. Mais quand on regarde les choses presque 25 ans plus tard, on se dit que c'est quand même hallucinant, non ?
On se dit que c'est quand même hallucinant. Bon, ça, quand on regarde, je regarde un petit peu dans le rétroviseur, donc il y a quand même 20 ans, donc les choses ont bien évolué. Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'en fait, on retrouve les mécanismes qui étaient à l'œuvre dans les années 2000 et début des années 2010 pour semer le doute, pour en fait minimiser l'effet scientifique, puisque ces faits scientifiques dérangent. Et donc on retrouve ces germes de climato-scepticisme qui sont nouveaux. Enfin, peut-être que climato-scepticisme n'est plus le bon mot, peut-être qu'on y reviendra dessus. Mais donc je suis assez inquiet de cette dérive vers de l'obscurantisme et la censure qui revient, puisqu'on le voit aux États-Unis où elle s'exprime de manière totalement décomplexé, totalement libre.
Et où les scientifiques sont particulièrement pointés du doigt. Christophe Cassou, on se retrouve dans un instant, on va en parler avec vous, évidemment, vous êtes notre invité au carré.
Ce que tu me fais, ce que tu me fais, ce que tu me fais. tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Simple comme bonjour pour toi, je cours, je viens. Des choses dans les veines et le cœur sur la main. C'est si facile de se laisser de côté. D'ores et déjà, je ne peux plus reculer. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais.
C'était Lynn, ce que tu me fais sur France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
Je crois que le modèle demande à être corrigé par une réflexion prospective. Difficile, mais on doit y arriver. Et par contre, alors, il y a un point pour lequel je ne vois pas de solution. Tant que nous utiliserons des combustibles fossiles, charbon, pétrole, nous ferons du gaz carbonique. Ce qui est grave, c'est que ce gaz carbonique a une absorption infrarouge et nous ne savons pas si l'augmentation de la teneur de l'atmosphère peut modifier les climats. Donc je crois que là, il y aura vraiment un changement technologique important au siècle prochain, avec vraisemblablement recours à l'énergie atomique, bien sûr, mais aussi à l'énergie solaire de plus en plus.
Extrait d'une archive de 1973 de l'ORTF dans la France défigurée. Pierre Pigagnol, c'est son nom, physicien, ancien conseiller scientifique de Saint-Gobain. Christophe Cassot, vous qui êtes climatologue, notre invité au carré cet après-midi. C'était donc il y a 52 ans, ce monsieur Pigagnol. Il était très clairvoyant dans ses propos.
Oui, alors on taxe souvent les sciences du climat comme des sciences jeunes. En fait, les processus physiques sont connus depuis très longtemps.
La preuve, là, oui.
L'effet de serre est connu depuis...
Même beaucoup plus longtemps.
Beaucoup plus longtemps. Et quand on regarde dans l'histoire, en fait, les meilleurs climatologues étaient ceux qui avaient été embauchés par les compagnies pétrolières.
Ouais.
Dans la mesure où on est vraiment à cette époque-là, où l'obstruction climatique s'est mise en place, ce poids des lobbies pétroliers est important, parce que les grandes compagnies pétrolières... américaine, mais aussi française, Exxon, Total, connaissaient exactement les impacts du changement climatique et avaient produit des simulations qui correspondaient à la trajectoire que l'on suit aujourd'hui.
Absolument, et qui ont donc fait perdre beaucoup de temps à l'humanité.
Énormément de temps, énormément de temps, et continuent aujourd'hui à faire perdre beaucoup de temps. Parce que... malheureusement, comme je le dis souvent, hein, les climatologues ne se sont pas trompés. Et on s'en va vers des réchauffements qui sont élevés. Les scientifiques du climat, on va dire, ont sous-évalué le risque climatique. Les climatologues n'ont pas sous-évalué le réchauffement climatique en tant que tel. Mais les impacts du changement climatique ont été sous-évalués. Et ils sont rehaussés, d'ailleurs, le niveau de risque est rehaussé à chaque rapport du GIEC.
Mais est-ce que là, aujourd'hui, il y a consensus quand même dans la communauté justement des climatologues? Est-ce qu'il y a une vision commune concernant les menaces liées au changement climatique? Ou est-ce qu'il y aurait une sorte de désolation collective de votre communauté face à l'ampleur du phénomène et face au peu de réponses aussi politiques?
Il y a une vision commune, il y a un consensus, les faits sont clairs. Mais face à ces faits qui sont limpides, en fait, la seule solution, c'est la détermination.
C'est-à-dire
qu'on doit continuer à porter les faits scientifiques en tant que communauté scientifique. On doit continuer à éclairer les débats. On doit continuer à dénoncer les mensonges dans un contexte de désinformation qui se généralise.
Inlassablement, même au prix d'un certain épuisement, d'une certaine lassitude, dans un contexte où, justement, on n'arrête pas de faire la sourde oreille et de vous taper dessus.
Je pense qu'il y a différents types d'engagement qui se complètent. Et donc, du coup, même s'il peut y avoir des moments de lassitude, des moments de fatigue qui sont fortes, la communauté est assez grande pour avoir des nouvelles personnes aussi, des nouvelles dynamiques qui émergent et qui portent ces enjeux.
Christophe Cassou, je voudrais vous faire écouter ou réécouter le président de la République à l'occasion de ses vœux. C'était le 31 décembre 2022.
Mes chers compatriotes, pour la sixième fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis ? Qui aurait pu prédire ? La crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays.
Quand vous avez entendu ça, donc au mois de décembre 2022, qui aurait pu prédire la crise climatique ? Qu'est-ce que vous avez dit, Christophe Cassou ?
Je me suis dit que c'était... J'ai été sidéré. J'étais sidéré et puis j'ai eu un petit instant de colère qui fait qu'à ce moment-là, bon, j'étais encore sur le réseau Twitter, j'ai réagi. J'ai réagi en apportant les chiffres, puisque c'est mon rôle. Et puis, j'ai réagi en tant qu'expert des fluctuations climatiques et de la prévision climatique et de la prévisibilité. Donc, le qui aurait pu prédire implique la notion de probabilité. Et en fait, pour le climatologue, quand on regarde les chiffres, l'été 2022, il avait une chance sur 10 d'arriver. L'été 2025, que l'on vient de vivre, avec le niveau de réchauffement actuel, avait une chance sur 6 d'arriver. Imaginez un dé. La phase 1, c'est la phase canicule. En début du mois de mai, vous tirez ce dé, vous avez une chance sur 6. En fait, c'est très faible, c'est très petit. Donc, c'est très prévisible.
Et donc ?
Et donc, ces événements sont présentés comme exceptionnels, parce qu'on bat des records, parce que les impacts sur la végétation sont extrêmement importants, parce que les impacts sur les corps, la santé physique, la santé mentale est important. Mais en fait, on confond l'exceptionnalité de la mesure avec la prévisibilité de l'événement. Donc ces événements, c'est quasiment du tout venant maintenant. Vous parlez à un assureur. Est-ce qu'il vous assure si vous avez une chance sur 6 d'avoir un accident ? Il ne vous assure pas. Parce que c'est du normal.
Votre parole, votre engagement, comment sont-ils perçus par vos pairs, d'ailleurs par vos collègues ? Est-ce que vous faites figure encore de marginal dans votre discipline, la climatologie ? Ou est-ce que finalement, des scientifiques qui s'engagent, qu'on entend aussi publiquement dans les médias, ça devient de plus en plus normal ou de plus en plus commun, fréquent ?
Je pense que ça devient de plus en plus fréquent. Hein. Et les engagements, comme je le disais au tout début, sont multiples. Je pense que l'argument de neutralité du scientifique ou de la science, est en train de sauter. On se rend bien compte que la neutralité, c'est un faux débat, parce que cette neutralité, elle est souvent associée à l'idée d'absence de valeur, alors que la science est empreinte de valeur. Et puis aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience sur le fait que ne pas s'engager ou ne pas être présent dans cet espace délibératif, dans le débat public, en fait, c'est contribuer au statu quo, parce que le danger est présent. Si le danger n'était pas présent, dans ce cas, le non-engagement pourrait être considéré comme un neutre.
Donc il y a un devoir, c'est ça ce que vous nous dites finalement ?
Voilà, pour moi il y a un devoir. Il y a un devoir qui est un devoir humaniste en fait.
Mais qui est loin d'être partagé par tous les scientifiques.
Qui est partagé de plus en plus par la communauté.
Quand même, vous l'observez ça ?
Oui, je pense qu'il y a quand même cette... cette émergence d'une communauté qui devient de plus en plus présente. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être les climatologues étaient les personnes qui étaient les plus exposées. Aujourd'hui, les écologues, les spécialistes de la biodiversité, également prennent le relais. Donc ça forge en fait un ensemble qui fait que l'engagement aujourd'hui... Il est quasiment nécessaire. Et puis, quelque chose qui me nourrit aussi quand je parle d'engagement, parce que là, je suis à l'École normale supérieure et je parle avec des étudiants aussi. Les étudiants sont engagés.
Beaucoup plus qu'avant ?
Beaucoup plus qu'avant.
Vous avez vu vraiment le changement ?
Oui, la nouvelle génération est vraiment engagée.
Mais ça veut dire quoi, être engagé quand on est étudiant aujourd'hui ?
Engagé, pour moi, ça veut dire qu'on questionne le sens de l'objet de recherche qu'on est en train d'étudier. Et comment on le porte dans ce débat sociétal. Donc, cette conscience-là, cette volonté d'être utile au débat et non pas se limiter à des études théoriques, elle est très présente chez les jeunes. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes doctorants viennent me voir, viennent nous voir en posant en premier dans les discussions que l'on a, cette idée de cette question du sens.
Oui. Ils ont le moral, vos étudiants, ou pas ? Dans les échanges que vous avez avec eux, qu'est-ce qui ressort en fait de l'époque qu'ils vivent aussi pleinement et du futur qui s'annonce pour eux ?
Alors peut-être que je suis biaisé par ma bulle et par les personnes que je rencontre, mais oui, je trouve qu'ils ont... Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont le moral. En tout cas, ils sont déterminés. Mmh. Ils sont déterminés pour prendre leur place dans ce débat sociétal. Et parfois, d'ailleurs, ils nous reprochent, gentiment, hein, de ne pas être plus revendicatifs.
C'est-à-dire
de ne pas être, s'engager davantage dans la désobéissance civile. Voilà.
Pourtant, vous avez beaucoup fait quand même dans ce domaine. Parce que vous êtes beaucoup impliqué, vous avez beaucoup apporté aussi de témoignages, vous avez défendu par exemple l'histoire des portraits d'Emmanuel Macron, vous avez témoigné sur la 69, vous avez aussi témoigné, vous êtes présent dans le débat public quand même.
Oui, oui, mais du coup, bon, je pense que c'est intéressant aussi de leur montrer qu'il y a une multitude d'engagements et qui peut aller de la désobéissance civile au témoignage dans un procès, à une audition à l'Assemblée nationale, jusqu'à rapporter des faits scientifiques lors d'un événement militant, comme par exemple je l'ai fait sur la 69.
Mais justement, la place du climatologue sur un dossier comme l'autoroute A69, c'est quoi précisément dans ce projet donc, qui est en cours maintenant de construction donc, entre Toulouse et Castres d'autoroute? C'est quoi votre place en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour essayer de faire bouger les lignes?
La place, elle est toujours de rapporter les faits scientifiques. Et d'opposer aux pensées magiques, aux opinions, des faits scientifiques.
Mais quand vous rencontrez Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui défend le projet d'autoroute, qu'est-ce que vous lui dites et qu'est-ce qui ressort de la discussion ?
Ce qui ressort de la discussion, c'est l'impossibilité de dialogue et d'espace partagé.
Avec les politiques ?
En tout cas, avec, suite à l'entrevue que... collectivement, nous avons eu avec Carole Delga. Mmh. Nous étions une délégation de la TECOPOL, Atelier d'écologie politique. C'est une unité d'appui de recherche du CNRS. Nous étions avec donc, plusieurs disciplines, des chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines, où en fait, on a demandé à Carole Delga de nous expliquer les raisons qui faisaient qu'elle soutenait ce projet. Mmh. Et chaque raison, en fait, a été battue en brèche par des faits. Et des faits qui venaient donc de chercheurs qui avaient étudié la discipline, de chercheurs de discipline qui correspondaient à ces avis sur l'économie, sur la compensation carbone, etc., etc.
Et pourtant, sa position n'a pas bougé du tout à l'issue de la discussion ?
Sa position n'a pas du tout bougé, alors qu'en plus, nous étions venus pour proposer, justement, de faire autrement. De renoncer à ce projet, mais d'en faire quelque chose, quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une opposition frontale.
Vous aviez une alternative, en tout cas.
On avait une alternative, ou en tout cas, on voulait aussi se montrer que la communauté scientifique était là pour éclairer le débat public, et c'est son rôle.
Et donc, c'est un échec, en fait, ce type de rencontre, de dialogue. Qu'est-ce qu'il en ressort, en fait, pour vous ?
Il en ressort de la frustration, et il en ressort du fait qu'aujourd'hui... les décisions politiques qui sont prises et qui ne sont pas en cohérence avec les enjeux climatiques, elles sont prises en conscience et en connaissance. Mmh. Il y a plus, on ne peut plus se cacher derrière le déficit de connaissance, le modèle de déficit, comme on l'appelle en sciences cognitives. Aujourd'hui, ce sont les idéologies qui drivent, enfin, qui conduisent aux décisions politiques. On l'a bien vu aussi pour la loi du plomb.
On en reparlera dans un instant, Christophe Cassou, parce que c'est un autre exemple, évidemment, au cœur de cet été caniculaire qui a beaucoup marqué, qui vous a aussi beaucoup marqué. On en parlera juste après Spoon sur France Inter. Christophe Cassou, vous êtes notre invité au carré.
Out of you can stay a while, guess I says it's enough.
Yes, I'm falling in love. C'était Spoon.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a quelques heures, nous avons réussi. Tous ensemble, nous nous sommes réunis autour d'un accord fort dont le monde a besoin.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
À 19h30, Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation. L'accord est historique.
À Paris, il y a eu bien des révolutions. Mais aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. La révolution pour le changement climatique.
Et on va donc fêter cette année les 10 ans de l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, puisque l'archive qu'on vient d'entendre, c'était le 12 décembre 2015, à l'occasion de la COP21. Christophe Cassou, vous qui êtes climatologue et notre invité au carré. Alors, 10 ans plus tard, la défense du climat et de l'environnement est piétinée dans le chaos géopolitique mondial. Est-ce que la cause climatique, en ce moment, est particulièrement difficile à défendre ?
Oui, la cause climatique est particulièrement difficile à défendre, mais elle, en fait, cette cause-là, elle s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. C'est l'émergence d'un monde soutenable et durable dans toutes ses composantes qui est difficile à défendre. Peut-être qu'aujourd'hui, la science, elle était déjà claire, mais aujourd'hui, elle est trop claire. Elle est trop claire parce qu'elle rentre en conflit avec des intérêts particuliers, des intérêts privés, et donc il ne s'agit plus de... En fait, il ne s'agit plus de climato-scepticisme, qui était un écran de fumée, hein, comme dit ma collègue Valérie Masson-Delmotte, entre la science et puis la société. Aujourd'hui, c'est du climato-bellicisme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on rentre en guerre. On rentre en guerre contre les valeurs qui sont portées par cette lutte nécessaire, cette décarbonation nécessaire pour limiter les risques. Donc, on rentre en guerre aussi contre donc la fabrique de la science, la fabrique de ces sciences climatiques, et contre aussi les climatologues. Et on le voit aux États-Unis.
Ouais. Et vous estimez attaqué, ou vous aussi, finalement, vous considérez entrer en guerre, Christophe Cassou ?
La frontière devient de plus en plus ténue, en fait, entre ce qui se passe, ce qui arrive aux États-Unis, et ce qui arrive ici en France, ou en Europe, hein, ou de manière générale dans le monde. On a vraiment les germes de cette attaque. Et la question que je me pose, c'est de savoir si un gouvernement de type Trump, à idéologie trumpiste, extrémiste, arrivé au pouvoir ici en France, quels seraient les mécanismes pour arrêter la catastrophe, l'effet dévastateur, la destruction de la science et des porteurs de cette science, des scientifiques, ici en France et en Europe.
Et alors, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qu'on se dit à ce sujet ?
Ben en fait, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet et puis je suis très inquiet aussi du silence aujourd'hui des politiques qui, lorsque les chercheurs et les instituts de recherche sont attaqués, sont dénigrés, ne réagissent pas. Aucune réaction du gouvernement quand l'INRAE, l'Institut de Recherche Agronomique et d'Environnement, a été muré. Quand certains chercheurs, et en particulier les écologues, qui sont peut-être un peu plus visés actuellement que les climatologues, sont vraiment menacés. Donc le scientifique devient en fait un ennemi, et un ennemi à abattre. Et donc il y a différentes techniques pour l'abattre. Le présenter comme militant, au mieux, et ensuite l'intimider, pour le discréditer, évidemment, hein, pour minimiser ses paroles, et ensuite l'intimider.
C'est votre cas ? Vous l'avez été largement, abondamment, en particulier lorsque vous étiez sur Twitter, hein, vous avez vraiment vécu des salves de propos extrêmement virulents à votre encontre. C'est ça, aujourd'hui, le quotidien des chercheurs ? C'est de faire l'objet d'attaques permanentes ?
Je dirais qu'il faut différencier... l'attaque permanente sur un réseau comme Twitter, qui est en fait la marque de fabrique du réseau. Et donc moi, personnellement, je n'y accorde plus beaucoup d'importance, parce que je pense que c'est nourrir en fait une déviance, quelque chose qui de toute façon est pervers et puis est vérolé. Ce qui est plus difficile, ce sont les attaques sournoises de militantisme qui visent à discréditer en fait la parole scientifique et à discréditer le chercheur. Et ça, je l'ai subi énormément pour la 69, et en particulier de la part de certains médias qui entretiennent en fait cette dynamique-là et qui nourrissent ces flots de haine que l'on voit sur certains réseaux. Ça aboutit aussi à des menaces, à des intimidations, à des photomontages que j'ai reçus à mon domicile, pas au labo, mais à mon adresse personnelle. Qui fait qu'au final, oui, évidemment, on commence à douter, on commence à se poser la question de savoir si on n'est pas allé en fait un petit peu trop loin avec sa casquette de scientifique. Mais absolument pas. En fait, si on s'auto-censure, comme mes collègues américains le font aujourd'hui, ça veut dire que le camp adverse, puisque j'ai employé un vocabulaire de guerre au début, le camp adverse a gagné. Donc il ne faut absolument pas s'auto-censurer, il faut reprendre tous les espaces qui sont donnés à la communauté scientifique pour rappeler les faits scientifiques.
Il y a une autre bataille à mener, c'est celle contre la désinformation, qui devient aussi la norme aujourd'hui, quelque chose d'assez déstabilisant d'ailleurs à observer quand on fait de la science en particulier. Je voudrais vous faire écouter Pascal Praud au sujet du réchauffement climatique, c'était en août 2022.
Je retiendrai de cet été brûlant que les Robespierre de l'écologie feront tout pour instrumentaliser les canicules, les feux ou les sécheresses. Tout sera bon pour attaquer le capitalisme et refourguer les vieilles lunes du XXe siècle qui ont prouvé de Moscou à La Havane leur efficacité. Le réchauffement climatique est un fait, on ne saurait le nier. En revanche, soyons vigilants à ne pas écouter les sornettes qui ont construit des sociétés de pénurie. Le réchauffement climatique est un fait, mais les remèdes proposés sont pires que le mal qu'ils entendent combattre.
Voilà, sur CNews, Pascal Praud en 2022, après un été caniculaire, hein, on peut le rappeler aussi Christophe Cassou. Est-ce que vous êtes bien outillés aujourd'hui, vous les scientifiques, pour répliquer à ce type de propos qu'on entend tous les jours sur ce type de médias ? Ou est-ce que vous êtes encore un peu déstabilisés finalement par l'ampleur de la désinformation ?
Cette désinformation, elle est partout. Donc du coup, c'est difficile. C'est difficile pour la communauté scientifique de faire émerger les faits. Sachant qu'elle peut aller jusqu'à sur les bancs de l'Assemblée. On a entendu des mensonges à propos de la loi du plomb, par exemple, du sénateur du plomb, mais aussi de la ministre de l'Agriculture. Je pense qu'il faudrait, ou en tout cas nous sommes engagés dans une réflexion sur comment contourner cette désinformation-là. Parce que je pense qu'il faut acter, en fait, la perte d'une bataille. Et ne pas utiliser les mêmes armes que nos adversaires, puisque on n'y arrivera pas, parce qu'on n'est pas non plus, on a une certaine éthique qui fait qu'un mensonge, on ne va pas répondre par un mensonge ou à l'agressivité, on ne va pas répondre par de l'agressivité. On a un cadre déontologique qui nous anime. Donc trouver une nouvelle manière.
C'est compliqué hein, dans le brouhaha actuel. Hein.
C'est compliqué, mais ça peut passer par d'autres vecteurs, comme en particulier l'art, le cinéma, le théâtre.
Vous croyez vraiment que c'est en capacité d'affronter ce type justement de fait, de désinformation, de véhiculer comme ça en permanence
Alors, il n'y a pas une solution, il y a une multitude en fait de stratégies, ça en est une. Tourner en ridicule également. Mmh. Et puis, un autre volet qui, pour moi, est en train d'émerger et qui a une dynamique qui est portante, c'est le volet judiciaire. C'est-à-dire aller en justice, aller dans les tribunaux, opposer les faits. Et on voit aujourd'hui que la justice tend à rendre des décisions qui confortent en fait les scientifiques et qui se basent sur les scientifiques. La Cour internationale de justice a rendu un avis qui est absolument important, absolument essentiel en fait dans la lutte contre le changement climatique, parce qu'en fait ces avis-là donnent une justification à la société civile, aux associations, aux scientifiques, à tous les acteurs de porter ces enjeux et de en fait, s'opposer aux projets et aux discours climaticides.
Vos étudiants, ceux que vous avez en face de vous régulièrement, Christophe Cassou, ils sont bien outillés justement, ils ont compris aussi comment il fallait répliquer pour gagner la bataille ou pas?
Je pense...
Est-ce qu'ils sont plus malins d'une certaine manière que votre génération?
Je pense qu'ils sont un petit peu plus malins dans la gestion des réseaux sociaux.
Ouais.
Mais de nouveau, hein, je pense que je suis biaisé en fait par les étudiants ou les jeunes adultes que je rencontre. Et ils sont un petit peu perdus aussi, quand même, encore, parce qu'on leur apprend, hein, dans notre formation, à apporter des faits scientifiques. Mmh. Et on leur apprend le cadre méthodologique d'élaboration de ces faits scientifiques. Et on leur dit qu'en fait, ce cadre méthodologique est aussi... voire plus important que le fait scientifique lui-même, parce que c'est lui qui donne la confiance, c'est lui qui assure une forme de traçabilité, de transparence, d'honnêteté. Et donc face à la désinformation qui est basée sur le mensonge et la manipulation, il y a une espèce de hiatus ou de dissonance entre ce qui est porté dans nos enseignements et puis la réalité du terrain, je dirais.
Merci beaucoup Christophe Cassou d'être venu à notre micro aujourd'hui.
Merci.
Et à bientôt.
Merci.
Merci à Anna Massardier qui a préparé ce dossier, Jérôme Boulet à la réalisation, Raphaël Rousseau à la technique et Lucie Sarfati pour la coordination de La Terre au Carré.